Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Info Droit sur RVVRS en compagnie de Fatia Mekiri, directrice de la Maison de la Justice et du Droit du Val-de-Seine et de Laetitia Poinevin, juriste. Bonjour Laetitia.
Bonjour Fatia.
Suite à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu mi-novembre et au Téléthon qui se déroule chaque week-end de décembre, nous vous proposons de faire un point sur l'handicap dans le monde du travail. Reconnaissance de la qualité du travail handicapés, obligation de recrutement pour les employeurs, articulation entre pension d'invalidité et allocation aux adultes handicapés, licenciement, on aborde tous ces points juste après une première pause musicale. Pour connaître vos droits, restez avec nous.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations.
RVVS 96.2.
Vous écoutez Info Droit, on vous le disait en préambule, aujourd'hui nous parlons de l'handicap qui arrive en cours de carrière ou avant l'entrée dans la vie active. L'avis d'incapacité ou d'invalidité émis par le médecin conseil ou de la sécurité sociale ne présume pas de l'attitude à travailler qui est déterminée par le médecin du travail.
Exactement Fatia. Schématiquement, lorsque les capacités de travail d'une personne sont fortement réduites suite à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle, elle pourra bénéficier d'une pension d'invalidité si elle a travaillé suffisamment dans les 12 mois qui précèdent l'interruption de son activité professionnelle. Donc ce sera au moins 600 heures de travail salarié ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire. Sinon, elle pourra prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Dans les deux cas, le travailleur pourra cumuler ses aides avec un salaire dans la limite des plafonds fixés. D'ailleurs, en parlant de plafond de ressources, il faut noter que pour le calcul de l'AAH, les revenus du conjoint sont pris en compte, contrairement à la pension d'invalidité. Et au moment où nous enregistrons cette émission, l'Assemblée nationale est amenée à se prononcer sur la déconjugalisation de l'AAH, puisque en fait, le 12 octobre dernier, le Sénat avait voté en faveur de ce texte. Et si l'Assemblée nationale vote également en ce sens, le calcul de l'AAH ne prendra plus en compte les revenus du conjoint. Donc c'est une affaire à suivre.
Après ce rappel important, qu'est-ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Laetitia ?
Alors, la RQTH, c'est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Cette procédure est engagée pour toute demande d'attribution de renouvellement de l'AAH. Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites suite à l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
Alors, comment obtenir la RQTH, qui veut dire la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé ?
La personne handicapée ou son représentant légal doit déposer le formulaire CERFA dédié, accompagné d'un certificat médical, également sous forme de CERFA, et des pièces justificatives demandées à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc pour les deux, pour les Muriotins, la MDPH territorialement compétente se situe à Verneuil-sur-Seine. Une équipe évalue la demande et des préconisations sont formalisées dans un plan personnalisé de compensation. C'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui a la compétence exclusive de reconnaître la qualité de travailleur handicapé telle qu'elle est définie dans le Code du travail. Cette reconnaissance est accordée pour une durée comprise entre 1 et 5 ans.
Alors Laetitia, quelles sont les mesures spécifiques liées à la reconnaissance du travail handicapé ?
Donc la RQTH permet de bénéficier de certaines mesures comme le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi, l'aménagement du poste ou des horaires, un accès spécifique aux emplois de la fonction publique via des concours aménagés en fonction du handicap de la personne ou via un recrutement en emploi contractuel pouvant déboucher à sa titularisation au bout d'un an, l'accès prioritaire aux contrats aidés tels que les contrats d'apprentissage, les contrats uniques d'insertion, etc. J'en profite pour vous préciser que c'est pas parce que vous avez la RQTH que vous êtes obligé de la faire valoir. C'est vraiment une décision du salarié d'en informer un éventuel recruteur ou son employeur.
On va marquer une pause de musique et restez avec nous.
There ain't no gold in this river that I've been washing forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go
De retour sur Info Droit, on discute aujourd'hui du travailleur handicapé et des mesures spécifiques. Laetitia, l'employeur a l'obligation de recruter les travailleurs handicapés. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette obligation ?
Alors, tous les employeurs ne sont pas concernés par cette obligation. Pour qu'il y ait une obligation d'emploi, il faut que la société compte au moins 20 salariés. L'employeur est alors obligé d'embaucher 6% de travailleurs handicapés sur la totalité de son effectif de salariés. Si tel n'est pas le cas, il bénéficie de 3 ans maximum pour régulariser sa situation et il doit adresser une déclaration annuelle au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Comment est mise en œuvre cette obligation d'emploi ?
Donc, il existe 3 modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi. L'employeur peut conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs handicapés indépendants ou des entreprises embauchant spécialement des travailleurs handicapés, ou encore accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. L'employeur peut faire application d'un accord collectif agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Et enfin, l'employeur peut verser au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
Alors, que risque l'employeur s'il ne satisfait pas cette obligation ?
L'employeur risque une sanction administrative. Donc en fait, à titre de pénalité, il devra verser au Trésor public une somme d'un montant égal à la contribution prévue par le Code du travail. À noter que les employeurs peuvent bénéficier d'aides financières pour le recrutement des travailleurs handicapés ou pour la mise aux normes d'un poste de travail.
Alors, une fois embauché, le travailleur handicapé bénéficie-t-il d'un traitement particulier ?
Alors, le travailleur handicapé exerçant une activité en milieu ordinaire bénéficie du statut de salarié à part entière. Il relève des dispositions du Code du travail et, le cas échéant, de celles de la convention ou des accords collectifs applicables à l'entreprise au même titre que n'importe quel autre de ses collègues. Toute inégalité de traitement pourra être qualifiée de discrimination et être pénalement sanctionnée. De même, le salaire des travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention de l'accord collectif de travail.
En cas de licenciement ?
Donc, le salarié en situation de handicap ne fait pas l'objet d'une protection particulière en matière de licenciement. Un salarié ne peut toutefois pas être licencié en raison de son handicap. Hein, si tel était le cas, ce serait une discrimination et ce licenciement serait nul. Donc, sauf déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. À noter toutefois qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse être portée au-delà de 3 mois sur la durée de préavis. Donc si par exemple dans le contrat de travail du travailleur handicapé, il est prévu 1 mois de préavis, celui-ci a le droit à une durée de 2 mois.
Une prolongation.
Oui, oui, oui.
On marque une dernière pause avant de discuter justement du licenciement pour inaptitude.
Je raisonne pas
trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi.
RVVS 96.2.
Bienvenue à ceux qui prennent l'émission en cours de route. Nous parlons de l'handicap aujourd'hui et de son incidence sur le contrat de travail. Lorsque la réduction de capacité de travail intervient, alors qu'on est en poste, suis-je obligé d'informer mon employeur de mon invalidité?
Alors, un salarié déclaré invalide par la Sécurité sociale n'a pas l'obligation d'en informer son employeur. Si le salarié continue à travailler normalement ou à fournir les arrêts maladie établis par son médecin, l'employeur ne pourra jamais avoir connaissance de la situation d'invalidité de son salarié. De même que le candidat à l'embauche n'est pas tenu de faire valoir sa qualité de travailleur handicapé.
Si j'en informe mon employeur, a-t-il le droit de me licencier ?
Alors, licencier automatiquement un salarié parce qu'il est invalide serait discriminatoire. Lorsqu'un salarié informe son employeur qu'il est en état d'invalidité, ce dernier doit organiser une visite médicale avec la médecine du travail. Au cours de cette visite, le médecin du travail procède à la vérification de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du salarié et préconise éventuellement un aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur en fonction des nécessités de l'état de santé du salarié. La visite de reprise donne lieu à la formulation de l'un des quatre avis suivants. Donc, un avis d'aptitude, le salarié occupe un poste en adéquation avec son état de santé. Un avis d'aptitude avec réserve. Le médecin du travail considère que le salarié est apte à son poste, mais oblige l'employeur à l'aménager en suivant certaines préconisations. À défaut, il devra lui trouver un emploi similaire tenant compte des dites préconisations. Un avis d'inaptitude. Donc cet avis va obliger l'employeur à procéder au reclassement du salarié. Ce reclassement doit être réalisé dans des conditions strictes précisées par la jurisprudence, à savoir une recherche de poste loyal et sérieuse. Et enfin, dernière possibilité, c'est un avis d'inaptitude comprenant l'une de ces deux mentions. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cet avis d'inaptitude très spécifique va dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. Et lorsque le médecin du travail indique l'une de ces mentions dans l'avis d'inaptitude, l'employeur pourra immédiatement procéder au licenciement du salarié pour une aptitude physique.
Alors, lorsque l'employeur a l'obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, le salarié peut-il refuser cette proposition ?
Alors, en principe, un salarié ne peut refuser un changement de poste que si cela comporte une modification de son contrat de travail. Ça, c'est le principe. En matière d'inaptitude, la jurisprudence est beaucoup plus souple, puisque la Cour de cassation considère traditionnellement que la seule modification des conditions de travail est suffisante pour qu'un salarié déclaré inapte à son poste puisse refuser le reclassement proposé. En aucun cas, son refus ne sera considéré comme fautif. Lorsque le salarié refuse le poste qui lui est proposé pour son reclassement, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences donc, de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement. Néanmoins, notez que le refus par le salarié d'un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail et comparable à son poste précédent pourra être qualifié d'abusif et lui faire perdre le bénéfice des indemnités spéciales prévues par, par le Code du travail qui concernent les salariés dont l'inaptitude est d'origine professionnelle. Donc en fait, le salarié conservera le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, mais il n'aura pas le doublement de cette indemnité légale.
Quelle est la procédure en cas de licenciement pour inaptitude ? Il doit y bien avoir une procédure à effectuer.
Alors oui, et la procédure de licenciement pour inaptitude obéit aux mêmes règles que n'importe quelle procédure de licenciement, à savoir la convocation à un entretien préalable, au cours duquel l'employeur présentera au salarié les études de reclassement qu'il aura menées et les raisons qui le conduisent à envisager le licenciement du salarié. La notification du licenciement par lettre commandée avec accusé de réception au plus tôt 2 jours après la date de l'entretien préalable. Le salarié étant inapte à son poste, il ne sera pas tenu d'exécuter son préavis. Et donc, l'employeur devra remettre les documents de fin de contrat, qui sont le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, dans lequel figurera l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés. À noter, une fois l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, l'employeur a un délai d'un mois pour procéder au reclassement ou au licenciement pour inaptitude. Pendant ce délai, le salarié percevra l'indemnité temporaire d'inaptitude versée par la CPAM. Passé ce délai, l'employeur qui n'a pas procédé au reclassement ou au licenciement de son salarié devra reprendre le versement du salaire. Et j'insiste encore sur un point parce que c'est vraiment une inquiétude qui revient sur nos permanents juridiques. J'ai été licenciée pour inaptitude. En aucune manière, un recruteur potentiel ne sera informé des raisons de mon licenciement. Et en aucune manière, je suis obligée, encore une fois, de l'informer de mon état de santé. Donc vraiment, n'ayez crainte par rapport à ce licenciement pour inaptitude.
Alors, si vous êtes confronté à cette situation, n'hésitez pas à venir poser vos questions à la Maison de la Justice au 79 boulevard Victor Hugo. Juristes, avocats pourront faire un point sur votre situation, vérifier que la procédure est bien respectée et que vos droits sont préservés. Je vous rappelle que nos services sont gratuit et confidentiel. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle émission Info Droit. Nous vous souhaitons une agréable journée.